de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs, plus ou moins visibles, des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture, et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits, et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode, pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiciens, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur l'enfermement, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État, et désamorcer, assimiler, récupérer, digérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Vous écoutez Bruit de tôle sur Canal Sud 92.2. Pour commencer cette émission, nous écouterons le témoignage de Marina, incarcérée en région parisienne, depuis décembre 2006 pour appartenance à ETA, Euskadita Askatasuna, et qui témoigne sur les conditions des lesbiennes en prison. On parlera aussi des cellules d'isolement du quartier de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et d'abolition de la prison. On écoutera ensuite un son sur une action qui s'est déroulée pour dénoncer les crimes policiers lors d'une manifestation du syndicat d'extrême droite Alliance, et on enchaînera sur la réforme du droit d'asile, les centres de rétention, une grève de la faim dans une prison pour étrangers en Grèce et les audiences de haute sécurité dans les prisons allemandes. Vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 05 61 53 36 95, de préférence pendant les pauses musicales, et en voici tout de suite une.
Thank you. nous allons commencer par lire une interview qui a été réalisée dans l'été par une détenue. Donc, nous n'avons pas pu l'interviewer et ça s'est fait par écrit. Donc, nous allons à plusieurs voix vous la retranscrire maintenant. Salut Marina. Tout d'abord, peux-tu te présenter et nous dire depuis combien de temps tu es en prison et dans laquelle es-tu incarcérée ?
Je suis incarcérée depuis décembre 2006 pour mon appartenance à l'ETA. D'abord à la MAF de Fleury-Mérogis, puis à celle de Fresnes, puis au centre de détention pour femmes de Réau, puis à la MAF de Toulouse. Je suis à l'heure actuelle de nouveau à Fleury. Depuis 2006, j'ai été jugée deux fois en France. J'ai fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et je suis en attente d'un nouveau procès qui se déroulera entre le 10 novembre et le 12 décembre 2014 à la Cour d'assises de Paris.
Peux-tu nous expliquer, à la condition que ça ne te mette pas mal à l'aise, quelle est ton histoire, ton passé politique et pourquoi tu es incarcérée ici ?
Je me suis impliquée depuis toute jeune dans les mouvements libertaires et autonomes de Barcelone, ma ville natale. Dans les centres sociaux occupés, j'ai trouvé des espaces d'action et de réflexion qui m'ont permis d'évoluer à travers des débats, des expériences de vie communes et des actions revendicatives et solidaires. C'est à travers les lectures que je me suis formée, mais également avec mes camarades, dans la rue, dans les actions anticapitalistes et antifascistes, en manifestant et en combattant toute forme d'oppression avec les moyens propres à chaque moment. En 2001, la garde civile a arrêté à Barcelone des camarades appartenant à l'ETA, lesquels ont été sauvagement torturés. Après ça, un juge espagnol a émis un ordre de recherche à mon encontre pour motif de collaboration avec ce commando. Alors, j'ai dû quitter ma ville pour entrer en clandestinité. En 2006, j'ai été arrêtée en Lozère avec deux autres compagnons dans une opération policière contre l'ETA. En prison, j'appartiens au collectif des prisonniers et prisonnières politiques basques, EPPK. Ce collectif comprend environ 500 personnes et nous faisons face aux mesures répressives qui nous sont imposées au jour le jour.
Tu as une longue peine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement au sein de la prison par rapport aux autres détenus ?
La classification des PS sert à l'administration pénitentiaire, l'AP, de carte blanche pour ajouter toujours plus de mesures sécuritaires et d'exception à certaines prisonnières et prisonniers. Avec cette étiquette, la paix te montre du doigt et jette sur toi tout son arsenal répressif. Annotation de tous tes mouvements dans des cahiers nominaux, contrôle de nuit toutes les 2 heures, avec allumage de la lumière, et parfois des coups à la porte pour te faire bouger. Fouilles intégrales systématiques après les parloirs et à chaque extraction. Fouilles et changements de cellules périodiques. Placement en cellules individuelles situées devant des postes de surveillance. Escorte renforcée dans les déplacements. Limitation pour accéder à certaines formations et activités, etc., etc. Tout ça, bien sûr, en plus de toutes les autres mesures sécuritaires existantes en prison pour toutes les prisonnières.
Tu as une relation amoureuse avec une autre détenue. Est-ce que toi, tu te définis lesbienne ?
Je pourrais me dire lesbienne par revendication politique et parce que ça dérange. Je veux contribuer à sortir les lesbiennes de l'invisibilité, pour crier haut et fort que nous existons, pour revendiquer qu'il y a des millions de façons d'aimer et que toutes sont légitimes, qu'il faut casser le modèle hétéro-patriarcal qui nous limite et nous oppresse, que notre façon d'aimer et d'établir des rapports avec les autres ne regarde que nous-mêmes, que nos corps nous appartiennent et que nous en ferons ce que nous voudrons. Je ne me revendique pas exclusivement lesbienne, je suis aussi lesbienne.
Et comment as-tu rencontré ta copine en prison ?
Avec ma copine, nous nous sommes rencontrés à Fresnes. Et après plusieurs transferts de l'une et de l'autre, nous nous sommes retrouvés de nouveau ensemble à Fleury.
Comment arrivez-vous à passer du temps ensemble dans cet espace hyper sécurisé qu'est la prison ? Comment pouvez-vous partager par exemple de l'intimité ? Et est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer plus concrètement ?
La prison est une machine à créer de la souffrance dans tous les sens. Une machine qui cherche l'annihilation de l'être humain en le dépouillant des gestes les plus élémentaires. À commencer par la nécessité de s'exprimer et de partager avec les autres, et en allant jusqu'aux besoins affectifs et sexuels. Rien de tout cela n'est prévu, bien au contraire. La structure de la prison est façonnée pour nous isoler au maximum les unes des autres et limiter les rencontres. Il n'y a pas d'espace non surveillé. Il n'y a pas de mouvement non contrôlé. Échapper à cette surveillance constante pour partager de l'intimité n'est pas une tâche facile. Et il faut se débrouiller comme on peut, en s'enfermant aux toilettes, en essayant de se rejoindre aux douches collectives ou aux vestiaires, ou des choses comme ça. En tout cas, il s'agit toujours d'espaces collectifs et surveillés où toute intimité est relative. D'une façon générale, la sexualité en prison est réprimée à tous les niveaux. Il semblerait que l'AP cherche à faire de nous des êtres désexualisés et aseptisés et à prendre le contrôle total de nos corps. Dans cette même logique d'uniformisation et de dépersonnalisation, elle contrôle nos vêtements. Pas trop courts, pas trop décolletés, pas trop transparents, pas trop revendicatifs. Même ce que nous faisons en cellule pendant la nuit est contrôlé à travers l'œilleton durant les rondes nocturnes, lesquelles peuvent te surprendre à n'importe quel moment, et bien sûr, ce qui se passe au parloir, et surtout dans les prisons des femmes, et surveillé de près par la paix. Des gestes que la surveillante considère trop affectifs peuvent être punis par l'interruption du parloir, la suppression du permis de visite et ou le placement au mitard en invoquant un supposé attentat à la pudeur.
Et est-ce que cette relation est acceptée par les autres détenus ?
Les relations entre femmes sont généralement bien acceptées par toutes. Mais il serait naïf de prétendre que tout se passe sans problème dans tous les cas. Comme à l'extérieur, ici aussi il y a des personnes homophobes. Mon ami et moi, on n'a pas vécu de moquerie car cette prison est assez grande. Nous sommes à peu près 300 et nous arrivons à nous rassembler entre personnes qui n'acceptent pas les attitudes homophobes et avec lesquelles nous pouvons nous exprimer librement. Cependant, j'aimerais mentionner la jalousie qui peut parfois se confondre avec l'homophobie. Ici, à l'intérieur, les carences sont si grandes que les gestes affectifs gênent parfois quelques femmes qui ne peuvent pas partager avec ces moments de bonheur, avec leurs proches. Cela se manifeste par de l'indifférence ou de l'éloignement, ou même par des critiques qui peuvent être blessantes.
Et comment réagissent les matones ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'homophobie ? Et si oui, quel type de remarques, de phrases, d'insultes ?
D'autres couples de lesbiennes nous ont parlé de situations de grande tension et de persécutions qu'elles ont vécues ici. Des menaces d'être expulsées de la salle de sport, des interdictions d'aller ensemble aux douches, des comportements de surveillantes qui, devant un simple bisou, se mettent à crier, des menaces de retirer les portes des toilettes, le regard du maton du sport qui ne te quitte pas des yeux et vient sonner à la porte pour te faire sortir, ou qui refuse d'ouvrir les douches jusqu'à la dernière minute. Nos camarades nous ont transmis ces mauvaises expériences, et à partir de là, on a choisi d'essayer de cacher notre relation amoureuse aux matones, en limitant les gestes affectifs devant elles. Façon de s'auto-réprimer, mais aussi la seule façon de nous protéger et de tenter de préserver quelques occasions de partage d'intimité. Ce qui est choquant pour moi, c'est qu'ici, à part quelques chefs et le maton du sport, on est surveillé exclusivement par des matones, des femmes. Beaucoup d'entre elles lesbiennes aussi, issues de milieux pauvres ou de peuples qui ont vécu l'oppression et l'esclavage. Il y a beaucoup de noirs et d'antillaises. Ça m'est difficile de comprendre leur manque de conscience et leur rôle actif dans cet engrenage. Ça me dégoûte énormément et ça me met doublement en rage.
Et comment le système pénitentiaire gère les histoires de couples au sein de la prison lorsque les deux personnes en relation sont toutes les deux en prison ?
La paix fait l'autruche devant les histoires de couples entre femmes. Les femmes peuvent être placées ensemble en cellule en en faisant la demande sans nécessité d'en exposer les raisons et c'est ainsi qu'elles le font. Cette demande est normalement acceptée, mais cela dépend du critère de la directrice. Mais pour nous, les prisonnières politiques basques, que nous soyons classifiées DPS ou DHR, détenues haut risque, l'AP applique d'autres critères, dont celui d'être placée seule en cellule. Cependant, cela dépend aussi de la prison. À Fresnes, par exemple, nous avons pu partager une cellule pendant quelques mois, pas parce que nous étions en couple, mais pour des raisons médicales. Quand nous nous sommes retrouvés à Fleury, nous avons refait la demande. Refusé. Le chef de détention s'est retranché derrière mon statut de DPS. Nous avons alors signalé le fait qu'à Fresnes, j'étais aussi DPS et que cela n'a pas été un obstacle. Mais l'argument du chef de détention, lequel, soit dit en passant, était dépassé par la conversation, a été qu'à Fresnes, il ne savait pas que nous étions en couple et que, s'il l'avait su, il ne nous aurait pas mis ensemble. Nous avons assisté à une conversation surréaliste entre personnes qui essayaient de dissimuler leur homophobie ont fait surface. Moi aussi, j'ai des amis homosexuels. Je vais vous faire une confidence. J'ai même des collègues qui le sont. En fait, ils ne savaient pas quoi dire, parce qu'il n'y avait aucune justification valable.
Le mariage entre deux personnes du même sexe a été légalisé. Avez-vous des droits pax mariage avec ta copine ? Et l'administration pénitentiaire vous a refusé le mariage. Et peux-tu nous expliquer les motifs de ce refus ? Est-ce que c'est parce que vous êtes deux femmes ?
Ils se remplissent la bouche de mots tels que droit au rapprochement familial, maintien des liens familiaux. Mais tout ça ne sont que des mots qui ne signifient rien. Dans la pratique, tout est fait pour briser nos liens et empêcher le contact avec nos proches et nos personnes aimées. En outre, tout modèle de famille qui ne coïncide pas avec le leur est exclu du système. Même si nous ne croyons pas au mariage, nous avons essayé de nous marier quand nous étions incarcérés dans des prisons différentes pour avoir l'occasion de nous voir au moins une fois le jour du mariage et essayer ainsi de faire valoir ce papier comme argument pour nous placer ensemble dans la même prison, dans la même cellule, puisque nos demandes antérieures n'avaient pas eu de succès. Nous nous sommes informés des démarches à faire auprès du SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de prévention, et nous avons constaté que la paperasse était longue, et encore plus parce que nous n'avons pas la nationalité française. Finalement, j'ai été transférée à Fleury, où ma compagne se trouvait, et au bout de 4 mois, elle a été extradée. Elle est incarcérée en Espagne actuellement. Ainsi, nous ne nous sommes pas mariés, et légalement, nous n'avons aucun droit.
Ce texte est publié à l'extérieur. Quelles sont tes revendications face à l'administration pénitentiaire ?
Ma revendication principale par rapport à la paix est l'abolition de la prison et la libération immédiate de toutes et tous les prisonniers. La prison est synonyme de torture. Elle est faite pour nous casser dans tous les sens. Je vois tous les jours des personnes complètement anéanties, perdues, isolées, enragées. Des personnes pauvres, exclues, révoltées, avec des problèmes d'addiction ou de santé, qui ont besoin de soins et de solutions à leurs problèmes, et pas d'enfermement et d'isolement. En même temps, la prison est seulement le reflet du modèle de société que le capitalisme nous offre, mais poussé à l'extrême. Le contrôle et la sécurité, la répression de toute forme de contestation, la destruction de la diversité, l'uniformisation de la pensée, l'exploitation des femmes par le patriarcat, l'exploitation à travers le travail, l'évasion à travers la consommation pour celles qui peuvent se le permettre, les conditions de vie de plus en plus précaires pour la grande majorité de la population. Derrière ces murs, il y a une prison à grande échelle qui se construit. Casser tous les murs, à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur, en finir avec la prison, avec ce système qui la génère, est la responsabilité de nous toutes. C'est pourquoi je profite de cette opportunité de m'exprimer pour faire un appel à la lutte et à la révolte. Force et résistance à toutes.
Voilà, c'était une interview réalisée par... Il faut nous appeler pendant les pauses musicales, pas quand on était à l'antenne. Je vais décrocher et raccrocher pour pas qu'on entende trop, parce que ça c'est fait. Alors, c'était une interview de Marina, donc qui a été réalisée par l'émission On n'est pas des cadeaux, qui est diffusée sur Radio Canute à Lyon de 17h à 18h, un vendredi sur deux. Il y a un blog si vous voulez les contacter ou voir ce qu'ils font, ce qu'elles font du coup. On enchaîne, on parlait de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et on va y rester puisqu'en fait, donc Fleury-Mérogis, déjà c'est la plus grande tôle d'Europe, hein, on le rappelle quand même, 2800 places, 4000 détenus. Et donc dans cette tôle, il y a comme dans toutes les tôles, un mitard et à la maison d'arrêt pour les femmes, et ben le mitard il est tout pourri et c'est 5 détenus qui dénonce les conditions de détention dans le mitard de la MAF et qui ont contacté l'OIP, donc l'Observatoire International des Prisons. Donc elle dénonce quoi ? Elle dénonce le manque de lumière, le manque d'aération, l'absence de mobilier et la vétusté des sanitaires en cellule. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est des conditions qui avaient été constatées en 2007, notamment par Dominique Voynet qui avait fait une visite de la MAF et qui avait qualifié le mitard d'endroit inhumain, le quartier disciplinaire donc de la maison d'arrêt des femmes de Fleury. Il est composé de 10 cellules sans fenêtre. La seule source de lumière naturelle, ça vient d'une ouverture au plafond, une sorte de lucarne circulaire qui est dans le sas qui sépare la cellule de la porte. Parce que dans les mitards, il faut rappeler que c'est une toute petite cellule, mais en plus dans cette cellule, il y a très souvent des sortes de ce qu'on appelle un sas en fait, c'est une cage grillagée par lequel le surveillant ou la surveillante rentre. Comme ça, le surveillant peut rentrer dans la cellule, être dans la petite cage qui est juste à l'entrée, observer si le détenu n'est pas dangereux ou quelque chose comme ça, et puis ensuite peut ouvrir la cage pour être en contact direct avec le détenu. Donc voilà, donc seule source de lumière, c'est cette lucarne qui est donc dans ce sas, et qui est opaque et en plus dotée d'une grille. Donc voilà, pas beaucoup de lumière naturelle. Et ce qui reste, c'est la lumière artificielle. Et puis on ne peut pas l'allumer ou l'éteindre soi-même quand on est détenu, puisque l'interrupteur est dans la cage, donc dans le sas de sécurité. Une détenue décrit même dans un courrier que l'éclairage empêche de lire ou d'écrire convenablement. Et en fait, déjà en 2007 aussi, une expertise qui avait été faite à la demande de l'OIP disait que le niveau d'éclairement était dérisoire, et donc ils avaient mesuré que sur le lit, avec la lampe allumée, la lumière était mesurée à 12 lux, une unité de lumière, alors que les normes prévoient un seuil minimum de 300 lux pour la lecture, donc 12 lux pour 300, voilà. Ça c'est pour la lumière. Pour l'aération, une détenue écrivait à l'OIP: j'étouffe et j'ai du mal à respirer. Les lucarnes en fait sont endommagées, elles s'ouvrent pas. Et pour compenser, les directeurs successifs de la MAF avaient depuis des années autorisé l'ouverture des portes pendant la journée. Donc en fait, la porte de la cellule était ouverte, mais la grille du sas était fermée. Les filles ne peuvent pas sortir, évidemment, mais ça permettait d'aérer au moins un peu les cellules. Mais selon les détenus, en fait, une nouvelle note de septembre 2014 interdirait dorénavant cette pratique. Du coup, quelques gradés concèdent d'ouvrir les portes par des courts intervalles, genre trois quarts d'heure deux fois par jour, mais des intervenants de la maison d'arrêt contactés par l'OIP confirment que les pratiques diffèrent selon les personnels. Certains ouvrent les portes 40 minutes le matin et l'après-midi, d'autres pas du tout. Une détenue signale que les portes des cellules sont toujours fermées, sans aération, l'air devient plus dense, nous empêchant de respirer normalement, et la sensation de claustrophobie augmente considérablement. Alors le courrier de l'OIP qui demandait des explications à la direction le 4 novembre 2014 reste sans réponse à ce jour. Manger, lire et écrire par terre, parce qu'en fait du coup il n'y a pas de mobilier comme elle le disait. Donc les cellules mesurent 7,59 mètres carrés très précisément. Donc grosso modo ça fait 2 mètres par 3 quoi, à peu près, quoi, ou 2 mètres et demi par 3, simplement meublé d'un sommier et d'un coin toilette surélevé. Donc l'espace où on peut déambuler, enfin je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est environ 4 mètres carrés, rapport d'expertise de 2007. Donc pas de mobilier, aucune chaise ou table, donc obligé de lire, écrire et manger par terre, écrit une détenue. L'espace sanitaire est démuni de toute séparation, évidemment. Il se compose d'un lavabo qui fournit que de l'eau froide et un WC à la turque. Voilà, donc ça c'était l'Agence régionale de la santé qui décrivait les cellules en 2012. Rénovation de la MAF, elle n'est pas envisagée avant 2016 au mieux. Donc au mieux quoi, donc ça c'est ce qu'ils nous disent, donc peut-être ce sera en 2018 ou 2020. Celle de la maison d'arrêt des hommes devant être achevée fin 2015. Voilà, donc parmi les 5 détenus qui ont écrit à l'OIP, certaines envisagent la possibilité de porter plainte, surtout en ce qui concerne l'aération. Donc voilà, comme ça a été fait dans pas mal de prisons où des prisonniers ont pu être indemnisés pour des conditions de détention déplorables, mais après la détention. Et donc l'OIP conclut son article en rappelant deux textes juridiques. D'abord l'article D350 du code de procédure pénale. Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Donc ça, c'était code de procédure pénale. Et puis, la Cour européenne des droits de l'homme avait rendu un arrêt en 2000. L'article 3 de la Convention impose à l'État, donc à la France, de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, blablabla, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable. Bon, je le lis pas parce qu'en fait, ça veut rien tout et rien dire, mais grosso modo, ça dit qu'il faut qu'il y ait des fenêtres et des aérations. Et juste pour finir avec ça, on peut rappeler quand même, parce que quand on décrit les conditions de détention au mitard, ça rappelle étrangement les conditions de détention en cellule de garde à vue. Et il y a nombre de cellules de garde à vue qui ont exactement les mêmes problèmes, et surtout de lumière et d'aération. Enfin bon, voilà. Donc les mitards ne sont pas les seuls lieux où on étouffe. On passe à une interview, c'est ça ?
Voilà, on passe à l'interview de Jacques Lesage de La Haye, qui est un militant anticarcéral de longue date, qui a lui-même été prisonnier durant de longues années. Et cette interview a été réalisée le 28 mai 2014 et on peut la retrouver sur le site internet Grand Angle Libertaire. Que reproches-tu au système carcéral ? D'être essentiellement répressif. Les concepts de base de l'administration pénitentiaire sont systématiquement sécuritaires et le discours sur l'insertion qu'elle appelle la réinsertion est presque uniquement une vitrine. Les syndicats de surveillants ne revendiquent que des augmentations de crédits et de personnel. Tu dis essentiellement répressif. Il n'y a donc pas seulement du répressif, il y a du positif. Il y a des responsables à la direction de la justice et dans certaines prisons qui se sont aperçus que les détenus sont des êtres humains. Très gênés de constater leur souffrance, ils en arrivent à proposer des améliorations des conditions de détention. Par exemple, ils s'occupent d'un suivi éducatif, mettent en place des formations professionnelles, accompagnent des aménagements de peine et essaient d'aider ceux qui décompensent au point de devenir complètement fous. Que penses-tu de ces améliorations ? Je pense que c'est un plus pour les personnes incarcérées, mais ce sont des emplâtres qui justifient et prolongent abusivement l'existence de la prison. Redorer les barreaux de la prison n'empêchera jamais que ce soit une prison. Si les prisonniers se sentent moins mal derrière les murs, ils auront moins de raisons de se révolter et se soumettront davantage à l'autorité. Ceux qui sont à l'extérieur, dupes des reflets de la vitrine, considéreront que la prison s'est humanisée. C'est une erreur. Enfermement et humanité sont antinomiques. Quant aux responsables de la pénitentiaire, ils risquent de se sentir déchargés de la responsabilité de la destruction carcérale par les couleurs pastels qu'ils auront apposées sur les murs des prisons. Au lieu de se sentir des bourreaux, ils se vivront en bienfaiteurs de l'humanité. Un atelier d'informatique peut aider un détenu à trouver du travail à sa sortie, mais il ne l'empêchera pas d'être infantilisé, déresponsabilisé et désespéré. Donc la prison détruit. On parle depuis quelque temps de peines alternatives. Qu'en penses-tu ? Est-ce que cela détruit moins ? En effet, les peines alternatives détruisent moins. Elles détruisent quand même. Farid Ben Radi, ancien détenu, a expliqué qu'en tant que détenu, il accepterait le bracelet électronique, mais qu'en tant que militant anticarcéral, il se battrait contre. Cette alternative peut permettre à celui qui en bénéficie d'être libre, d'avoir une vie professionnelle, affective et même sexuelle. Mais ce dont il ne se rend pas compte tout de suite, c'est qu'il intériorise la prison. Il est lui-même son propre gardien. Il sait qu'il ne doit pas dépasser le périmètre de sécurité. Sans cesse sur le qui-vive, il se traque insidieusement avec les horaires convenus avec ses autorités de tutelle. Finalement, il se persécute lui-même et finit par se construire sur le mode paranoïaque. L'effet pervers du système est de donner l'illusion de la liberté et de créer une autre forme d'enfermement qui est l'aliénation mentale. Sur cet exemple du bracelet, on peut croire en t'écoutant qu'il produit de la maladie mentale autant que les murs. N'y a-t-il pas de différence ? Sachant que la maladie mentale est un phénomène important de la prison. On peut y rentrer fou et y aggraver son cas, mais aussi on peut y devenir fou. Les peines alternatives ont des effets nuancés, mais d'autant plus pervers qu'ils sont inconscients. La prison est massive. Elle détruit de manière frontale. Elle prétend assister. En fait, elle anéantit le sens de l'autonomie et l'énergie de la liberté. Certains prisonniers, des longues peines, reviennent le soir de leur libération demander à être réincarcérés car ils ont été terrorisés par le vacarme de la vie urbaine. De plus, la solitude, la frustration affective et sexuelle, l'impossibilité d'ouvrir et de fermer une porte, la perte d'horizon et la mort de l'espoir provoque de la haine, de la rage, des désirs de vengeance, du suicide et de la folie. 50% des détenus récidivent, et au sein du parc pénitentiaire, on se suicide 7 fois plus que dans le reste de la société. Et au mitard, c'est-à-dire au cachot, 7 fois plus que dans le reste de la détention. Le bilan est accablant, mais alors que faire avec les gens qui, pour X raisons, et pour résumer très simplement les choses, nuisent à autrui? Il n'est pas impensable d'imaginer un changement radical de société qui ferait diminuer les mauvaises raisons de nuire à autrui. Éradiquer la misère éviterait une grande partie de la délinquance économique. Dans le domaine de l'éducation, prévenir les carences narcissiques et les pulsions primaires irrésistibles diminuerait sérieusement la criminalité sexuelle. Le passage d'une civilisation de la faute à une culture de l'infraction à la loi nous sortirait de l'impasse de la punition. En l'état, il n'est pas pensable de laisser errer dans la rue une personne susceptible de faire de nouvelles victimes. Mais peut-être allons-nous pouvoir commencer à penser. Si nous éradiquons le concept de peine, nous allons peut-être approcher de la résolution du problème posé par le crime ou le délit. Nous cesserons de penser que la solution est l'administration d'une affliction ou d'une douleur. Nous cesserons de croire que la transgression des règles doit se traiter par l'application d'une souffrance au regard de celle infligée à la victime. Le règlement d'un conflit ne doit pas passer par la riposte sadomasochiste de la punition. Il est temps de mettre fin au règne de la faute et de la culpabilité. Des lois gèrent le fonctionnement de la société. Les transgresser est une infraction et rien qu'une infraction. Désigner l'acte consiste à gérer la question posée par l'acte. Elle permet une médiation entre l'auteur et la victime. Elle peut même déboucher sur une réparation pour la victime et le groupe social auquel elle appartient. Nous pouvons imaginer des accompagnements durant ces entrevues et ces négociations jusqu'à l'apaisement des émotions provoquées par la violence commise. Le temps des palabres et d'une évolution commune, les Indiens du Guerrero au Mexique hébergent les délinquants et les criminels dans leur village. Ils mangent et travaillent ensemble sous le regard d'un mandaté délégué par le collectif des 66 villages. Ils n'utilisent donc pas les prisons fédérales mexicaines. De même pour les criminels sexuels. Nous pourrions créer de véritables centres alternatifs afin de traiter les pathologies très lourdes qui sont à l'origine de leurs crimes. Les peines alternatives enferment et détruisent sournoisement. Les alternatives à la peine abandonnent le concept obsolète de faute. Il n'est plus question de plonger dans la douleur celui qui a propagé cette même douleur. Le traitement rationnel et humain de l'infraction à la loi restaure la victime, responsabilise l'auteur, rétablit l'ordre dans le groupe social perturbé. L'accession à la justice et à la liberté passe par l'abandon de la loi du talion. Si l'on constate l'échec du système carcéral, si d'autres solutions existent, qui sont libertaires dans le sens où les personnes ne sont plus privées de liberté, ne sont plus bannies de la société et sont invitées dans la mesure du possible à réparer les dommages qu'elles ont causés, qu'est-ce qui empêche ce changement nécessaire? Une sorte d'atavisme? Le populisme en tant que nécessité électorale? Flatter les désirs de vengeance? Ou bien y a-t-il un modèle américain, tel qu'en parlait il y a déjà longtemps Loïc Vacan dans les prisons de la misère en 1999, à savoir un véritable système esclavagiste dans lequel aujourd'hui aux États-Unis environ 1% de la population est incarcérée, et que peut-on faire? Le frein le plus efficace à tout changement est la peur. Un pourcentage important de personnes passent leur vie dans la crainte, l'effroi et la terreur. Elles réclament des assurances tout risque pour la voiture, la maison, les enfants, les voyages, la circulation en ville, les promenades en forêt, la naissance, l'hospitalisation et même la mort. Le génie qui inventerait l'assurance contre la mort deviendrait le plus riche et le plus puissant du monde. Bien entendu, les politiques surfent sur ces vagues émotionnelles. Les plus visibles sont ceux et celles qui, pervers et psychopathes manipulateurs, érigent leur campagne en discours populiste. Ils soulignent et amplifient les travers phobiques, obsessionnels et paranoïaques de la masse. Cela donne la xénophobie, le racisme, le nationalisme, déguisé en patriotisme, et la protection des frontières. L'instinct grégaire a pour effet de rassembler les moutons derrière le leader charismatique qui va les jeter dans le précipice. De plus, nous sommes bien d'accord avec Loïc Vacan. Les requins de la finance amplifient le mouvement, car ils entendent bien faire de la prison et de l'hôpital psychiatrique des espaces à bleu et privés, tout simplement rentables sur le plan économique. Adieu donc l'humanisme, l'entraide et la fraternité. Un nombre manifestement suffisant de citoyens votent. Rien ne doit changer. Les fous et les pauvres vont en prison et, à la rigueur, à l'asile. Les votants peuvent dormir tranquilles. Les élus les protègent contre ceux qui pourraient remettre en cause leurs misérables privilèges. Tu ne vois donc pas de réel changement possible sans un changement global de société. Dans une interview récente, Angela Davis, du mouvement abolitionniste, dit que le but du mouvement est de recréer une société démocratique qui permettrait l'intégration des anciens esclaves, c'est-à-dire que le mouvement pour l'abolition entend participer à la construction d'une nouvelle démocratie. Cela te paraît-il envisageable ? Des changements sont possibles, même sans révolution, mais ils seront minimes et iront toujours dans le sens d'une récupération. Regardez comme nous sommes humains. À l'inverse, en accord avec Angela Davis, tout libertaire ne peut que participer à la construction d'une nouvelle démocratie, mais clairement sur le mode de la gestion directe. La déconstruction de la prison passe par l'abandon de toute peine au profit des seules alternatives. Elle s'achève par l'abolition. Cela implique une société débarrassée des piliers répressifs de l'État. Prison, hôpital psychiatrique, armée, police, école, famille et services prétendument sociaux. Pour y parvenir, il est nécessaire que des réseaux et des collectifs œuvrent dans tous les secteurs. Il importe aussi qu'ils se coordonnent et se fédèrent selon la maturité de l'évolution ou de la révolution. Dans une démocratie directe, la notion de peine est obsolète, même alternative. Il n'existe que la liberté et son corollaire, le respect de la liberté.
Voilà, c'était une interview de Jacques Lesage de La Haye, toujours bien critique envers les institutions et toujours avec des pistes de solutions, donc c'est toujours intéressant. Et on va enchaîner, alors vous aviez peut-être entendu parler le 13 novembre dernier des policiers du syndicat Alliance qui défilaient à Paris. Eh ben, Fréquence Paris Pluriel y était pour accompagner Amal Bentoussi. On écoute ça tout de suite.
Le jeudi 13 novembre 2014, la police, le syndicat Alliance, appelait à une manifestation de Bastille jusqu'à République où étaient déployés des écrans géants, des moyens assez impressionnants. La police, forcément, parle de 8500 policiers dans les rues. Non, nous n'en avons compté que entre 3000 et 4000. Et nous avons eu la surprise de croiser Amal Bentoussi, la sœur de ce jeune homme tué dans le dos par la police.
Il y a à peu près 4000 policiers. 4000 policiers, tout ça, il y a le drapeau blanc, c'est la vague bleue. Et Amal a le courage de venir toute seule, avec une banderole, un panneau, où il y a maintenant l'urgence d'appeler sa sœur à toute impunité. Et là, elle a le courage toute seule de venir braver cette manifestation. Et là, les flics qui passent font où ? Et elle crie, la police assassine. Par les policiers. Ouais. Alors la police, elle n'est pas contente de ce message adressé par Amal à leur égard et il lui lance des pétards dessus pour la faire taire, mais elle. Elle monte sur un petit plot pour être plus haute et pour se faire mieux voir. Ils viennent de lui arracher son panneau où dessus était écrit « La police assassine ». Il y en a un qui vient de lui arracher. Elle est toute seule face à des milliers de flics en colère. Et elle continue.
Bon ben voilà, ils sont passés et puis là nous on est sur le trottoir. Donc pourquoi t'as tenu à dire ce que tu avais à dire lors de cette manifestation d'Alliance ?
Devant les syndicats Alliance, parce que les syndicats Alliance, c'est eux qui ont appelé à manifester lors de la mort de mon frère en 2012, donc le 21 avril 2012. Donc ils ont fait des manifestations sauvages un petit peu partout en France et ils ont appelé à manifester. Ils ont appelé à manifester contre une décision de justice. Ce magistrat qui était très courageux dès le départ, qui avait mis homicide volontaire comme chef d'inculpation, et eux, ils ont appelé à manifester donc cette décision de justice. Donc quand on me dit la police, il y a des bons, il y a des gentils, non, je suis pas d'accord. les syndicats Alliance Police protègent, soutiennent et demandent, s'immiscent dans une décision de justice. Donc je dis que celui qui ne dit mot consent. Donc pour moi, vous avez vu la preuve aujourd'hui, c'est la démonstration magistrale qu'ils sont tous pareils. C'est-à-dire que là, on a eu le droit à des insultes. Bon, j'étais toute seule avec Youssouf, en tous les cas, mais voilà, on a tenu le truc et on tenait à leur dire que c'était des assassins qui tuaient en toute impunité et depuis plus de 30 ans et qu'il fallait que ça s'arrête un moment. Donc,
alors,
voilà.
Depuis la mort de Rémi Fraisse, toi, tu continues à être sur la brèche, j'ai envie de dire.
Parce que Rémi Fraisse, malheureusement, la mort de Rémi Fraisse, c'est la conséquence de cette impunité qui existe depuis 30 ans. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire à sa famille, c'est qu'ils lâchent pas, qu'ils tiennent, qu'ils aillent jusqu'au bout. La seule différence entre la mort de Rémi Fraisse et d'autres, c'est que Rémi Fraisse, il y a toute une mobilisation autour. Les médias se sont emparés, donc c'est vrai qu'il y a une pression. Mais dans des quartiers populaires, quand Amine ou Wissam se font tuer, c'est vrai qu'il n'y a pas autant de solidarité. Et là, j'ai envie de dire que c'est exactement la même chose, mais simplement, le dossier sera traité de la même manière. On l'a vu hier dans les révélations qui ont été faites par Mediapart, quand on se rend compte qu'il y a eu un mensonge d'État dès le départ. Mais dans toutes les affaires, c'est quasiment pareil. Donc là, que l'opinion publique s'en rende compte maintenant, c'est grave. Moi, ça fait 2 ans et demi que je le dis, et il y en a qui le disent depuis 30 ans. Donc stop à l'impunité, que ces policiers soient jugés. Tant qu'on n'aura pas des policiers qui seront condamnés à 20 ans ou à 30 ans ferme, ils continueront à tuer en toute impunité.
Alors, il y a ça, il y a ce que tu dis, et puis il y a aussi le fait que les flics sont dotés d'armes de plus en plus sophistiquées et soi-disant non létales, et on se rend compte qu'elles sont létales. Ils ont des techniques d'intervention, de plaquage, des pare-chocages, des tasers, des flashballs, tout un tas de matériel qui font que petit à petit, on s'en rend bien compte. Eh ben, ils donnent la mort.
On a affaire à des professionnels. Ils sont formés pour ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des jouets entre les mains. Ce sont des armes qui peuvent nuire à des gens. On est fait de sang et de chair. On n'est pas des pantins. On n'est pas en bois. Quand ils prennent leur arme pour tirer sur un citoyen qui manifeste ou parce qu'il se soustrait à un contrôle d'identité, ils savent pertinemment ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils savent que derrière, il y aura les syndicats policiers qui vont les soutenir, qui vont être là derrière eux pour mettre la pression à des juges qui ont envie peut-être de faire leur travail correctement, mais malheureusement qui n'y arrivent pas. Et donc les instructions, elles se terminent soit par des non-lieux, ou soit il n'y a rien du tout, ou soit c'est étouffé, qui vont jusqu'au vice d'aller approcher les familles, de dire « oui, vous inquiétez pas, toute la lumière sera faite sur la mort de votre frère ». Ils n'informent même pas la famille qu'elle doit se constituer partie civile. Et souvent, les délais passent et les familles attendent que justice soit faite et se rendent compte qu'il n'y a rien qui a été fait. Deux mois avant la mort de Rémi, il y a eu Houssine Bourras qui a été tué par un gendarme dans une camionnette qui l'emmenait voir un juge. Une balle dans la tête, menottée. Donc comment on explique ça ? Donc après, le mensonge d'État qui a été révélé hier pour la mort de Rémi Fraisse, c'est systématique. Qu'on s'en rende compte maintenant, c'est très bien. Mais maintenant, il faut faire avancer les choses et il faut que la population soit au courant de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que l'État ment et que l'État soutient ses chiens de garde, les chiens de la République.
Et donc tous ensemble ?
Tous ensemble, voilà.
Merci Amal.
Oye, este es Calle 13. Esta canción va dedicada a todos los llorones del género del reggaetón. Para que aprendan. Oye, dile, duro.
No quiero que llore. Quiero que llore, yo quiero que guau, llore.
Lamento informarte que hoy mi cerebro desayunó esteroides y tú rimando eres la mitad de un espermatozoide. Hoy voy a cumplir uno de mis placeres, abusar de ti como Osvaldo Ríos abusa de las mujeres. Déjame darte un par de detalles, yo no soy calle, perdona que lo subraye nuevamente, yo no soy calle. Y si veo alguna tripa algún día, puede que me...
Bon, on est désolé, on va couper le son, le Calier 13, c'est pas dans nos habitudes, mais là, on est complètement pris par le temps. Alors, on voulait ouvrir avant la fin de cette émission une page concernant les étrangers, les expulsions, etc., 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 etc. Alors, la semaine prochaine, par contre, il y aura une chronique de la CLIM, collectif de lutte et d'information pour les migrants et migrantes de Toulouse, et cette chronique sera d'Embrue de Tôle. Mais en attendant, une lettre ouverte aux parlementaires qui a été rédigée par la Coordination Régionale Bretagne-Pays de la Loire solidaire des personnes immigrées. Un collectif de collectifs qui est en Bretagne, en Pays de la Loire en fait. Et donc, lettre ouverte aux parlementaires sur quel projets, c'est les projets de loi sur l'asile et le droit des étrangers en France. Alors la coordination s'inquiète d'une réforme qui n'est pas celle qu'elle espérait. Elle espérait plutôt une réforme progressive du droit d'asile et des conditions d'entrée et du séjour des étrangers en France. Et ben c'est raté puisque le projet de loi, enfin les deux projets de loi, du coup vont complètement dans la continuité en fait des anciens projets de loi. Alors le texte fait 3 pages, j'aurais pas le temps de vous le lire et puis ce serait peut-être un petit peu chiant. Mais il critique tout d'abord une politique d'asile trop soumise aux impératifs d'une politique d'immigration restrictive. Par exemple, le préambule du projet de loi sur l'asile dit que le dispositif français est aujourd'hui inefficace et inégalitaire. Bon, au moins, ils s'en rendent compte. Mais il crée une incitation, et donc le préambule continue en disant « il crée une incitation au détournement de la procédure d'asile à des fins migratoires ». Donc voilà. Donc en fait, on dit que, enfin, le projet dit que c'est inefficace et que ça incite les gens à frauder, quoi. Donc soupçon de fraude généralisée, évidemment, donc très critiqué par la coordination. Et puis plein de petits détails, les procédures d'asile qui sont accélérées, parce qu'en fait le but du projet c'est de pouvoir statuer plus rapidement sur les demandes d'asile, mais en fait c'est accéléré, pas forcément dans le bon sens, avec des assignations à résidence, des cours qui statuent avec seulement un juge à la place de 3, en un mois à la place d'un an. Enfin, tout ça va se faire très certainement dans la précipitation. Et puis aussi, la coordination dénonce même l'instauration d'un schéma national des places d'hébergement pour les demandeurs d'asile. En fait, c'est un dispositif d'hébergement qui est contraignant et qui permet de déplacer les demandeurs d'asile dans une autre région que celle où la personne se présente. En fait, il s'agit d'assurer une meilleure acceptation locale des demandeurs d'asile. Bref, les demandeurs d'asile deviennent des pions et puis on les fait aller où bon semble à l'administration. Et voilà. Donc les demandeurs d'asile pourront voir leur demande d'asile suspendue et être exclus du dispositif d'accueil s'ils ont quitté leur lieu d'hébergement sans autorisation administrative. Donc c'est du gros flicage. T'es hébergé dans un endroit, mais si pendant 48 heures tu te présentes pas, t'es plus hébergé, et puis ta demande d'asile, elle saute. Et puis des assignations à résidence généralisées, des demandeurs d'asile, voilà ce qui se cache en fait derrière tout ça. Et puis il y a deux projets en fait, il y en a un sur l'asile, et puis un sur le droit des étrangers plus largement. Et donc là, c'est clairement immigration choisie et politique d'expulsion massive, nous dit le communiqué, la lettre ouverte en tout cas. Alors, ça continue, un principe d'intégration républicaine des étrangers, avec un contrat personnalisé comme c'était déjà le cas, mais bon, là c'est la première grosse réforme de la gauche, et eux qui criaient contre tous ces trucs-là il y a quelques années, ils enfoncent le clou. Et puis une création, alors ça c'est intéressant, une création d'un titre de séjour, une carte de séjour pluriannuelle. En fait, jusqu'à l'heure actuelle, il y avait deux types de cartes de séjour, la carte de séjour d'1 an et la carte de séjour de 10 ans. Quand on avait la carte de séjour d'1 an, c'était un peu précaire, puis celle de 10 ans, c'était la fête. Et bien là, une nouvelle carte de séjour va être créée de 4 ans maximum. Alors on se dit, c'est bien, comme ça, ça fait une carte de plus qui est un peu plus longue que celle d'un an. Bon, c'est pas tout à fait celle de 10 ans, mais en fait, non. C'est pas pour remplacer celle de 1 an qu'ils font celle de 4 ans, mais c'est plutôt pour remplacer celle de 10. Et puis, la nouvelle carte de séjour de 4 ans, elle pourra être retirée au milieu de la durée de 4 ans, par exemple, si l'étranger a changé de statut, enfin voilà, s'il avait été régularisé pour le mariage, par exemple, s'il divorce, on enlève la carte, alors qu'avant, c'était pas possible. Voilà, donc voilà, immigration choisie, toujours des compétences et talents. Alors, il y avait une phrase que j'avais... Le projet de loi dit « Dans un monde de forte concurrence économique, l'intérêt de l'économie française est de profiter de l'expérience et de la qualification professionnelle des étrangers talentueux. » Voilà, donc il crée en fait des dispositifs pour que les étrangers talentueux puissent venir en France et que les autres ne viennent pas quand même. Voilà. Et puis quand même, puisqu'on parle pas mal de prison à cette antenne et dans cette émission, la prison reste la règle en matière de politique migratoire, puisque le projet dit que tout étranger qui se sera soustrait, qui aurait tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion, grosso modo un étranger qui essaye de se barrer d'une prison, qui essaye de ne pas être embarqué dans un avion ou de ne pas se rendre au commissariat quand il est convoqué, sera puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement. Donc ça, voilà, ça continue, et puis quand on n'est pas en rétention, on est en détention. Et puis oui, pour finir quand même, encore sur le contrôle médical, ouais, ça c'est important quand même, parce que C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers qui se font régulariser parce qu'ils sont malades, et ça, il fallait que ça cesse quand même. En fait, avant, c'était l'Agence régionale de la santé qui disait si un étranger était vraiment malade ou pas et s'il fallait lui donner un titre de séjour. Et ben maintenant, ce sera un collège de médecins du service médical de l'OFI, l'OFI qui est une institution sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, donc plus du tout d'indépendance du diagnostic médical garanti. La lettre ouverte finit par libre circulation, libre installation, régularisation de toutes les personnes sans papier, arrêt des expulsions, libération de toutes les personnes sans papier, fermeture des centres de rétention. Ça, on aime quand ça finit comme ça. Et du coup, pour continuer dans le même domaine, un rapport de la CIMAT qui vient de sortir.
Un rapport annuel, en fait, des 5 associations qui interviennent dans les centres de rétention, donc qui sont l'ASFAM, le Forum Réfugiés COSI, la FDDA, la CIMAD et l'Ordre de Malte France. Donc, sortent un rapport tous les ans, donc qui vient de sortir et qui constate la persistance d'atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes retenues. Donc, un peu comme tous les ans, hein, et on peut constater que même tous les ans, ça s'aggrave. Là, donc, on a quelques chiffres clés. Donc, en 2013, ce sont plus de 45 000 personnes qui ont été privées de liberté. Le nombre de retours forcés a également augmenté, atteignant 44 458 personnes contre 38 652 en 2012. Le nombre de personnes éloignées via le dispositif d'aide au retour a quant à lui fortement chuté. Et l'année 2013 marque aussi une augmentation du nombre d'enfants en détention, essentiellement à Mayotte, où 3512 mineurs ont été enfermés, contre 2575 en 2012, ce qui fait quand même...
3500 mineurs enfermés en un an à Mayotte, quoi.
Oui, ce qui fait quand même quasiment 1000 de plus que l'année d'avant, donc c'est quand même pas mal.
C'est hallucinant. Sachant qu'en France, en métropole, disons, il y en a à peine une centaine, je crois, chaque année qui sont enfermés. Mais à Mayotte, il y en a 3500, juste à Mayotte.
Oui, et puis il faut savoir que plus de 60% des personnes qui sont éloignées de force depuis la métropole le sont dans un pays membre de l'Union européenne, en général le pays dans lequel ils sont, le premier pays dans lequel ils sont arrivés.
Ouais.
Et que du coup, il y a aussi un record qui est le record de l'enfermement des citoyens européens en rétention, puisque les accords ne concernent pas de la même façon tous les pays. Et la plupart donc, des citoyens qui sont enfermés en centre de rétention sont des Roumains. Et donc, il a été battu aussi en 2013.
Voilà, tout record battu. Merci,
voilà,
merci le gouvernement.
C'est un peu comme ça tous les ans, donc c'est c'est un peu pénible. Donc, le rapport dénonce une politique d'éloignement, de déportation, on pourrait dire d'ailleurs, basée sur un système d'enfermement à grande échelle et menée au détriment des droits. Ils appellent une nouvelle fois à un changement de politique et au respect effectif des droits fondamentaux des personnes placées en rétention. Ils peuvent toujours appeler à ça, mais en gros, dans la société actuelle
après
et dans
changer.
Le... Voilà.
Et on vous invite à lire ces rapports, ils sont gros, mais en général, ils sont plutôt bien rédigés et c'est très détaillé, quoi, c'est intéressant. Et puis, pour continuer là-dessus sur les centres de rétention... on va en Grèce, puisque en Grèce, c'est le bordel, quoi. On peut dire ça comme ça. Il y a des centaines de... Voilà. Alors, je reprends à zéro. Le 6 novembre, donc c'était il y a 15 jours, Mohamed Asfak, pakistanais, est décédé en centre de rétention près d'Athènes, au centre de rétention de Amygdalesa. J'espère que je prononce ça correctement. Et donc, pour faire suite à ce décès et aux conditions de détention, de rétention du coup, qui sont pourries, une grève de la faim a été lancée lundi dernier pour protester contre la mort de Mohamed Asfak. Donc voilà, il souffrait de graves problèmes respiratoires et il n'a été hospitalisé qu'au stade final. Voilà, donc c'est étonnant. Il y a deux ONG, je ne sais pas lesquelles, rappellent que la victime avait été frappée par des policiers lors des incidents il y a quelques mois entre des forces de l'ordre et des migrants dans un autre centre, à 80 km dans le sud-ouest d'Athènes, sur fond de protestations pour les mauvaises conditions de rétention. Depuis ces incidents, Mohamed Asfak avait réclamé d'être soigné et les associations ajoutent qu'à plusieurs reprises, ils ont dénoncé le manque d'infrastructures et d'espace à Amygdalesa, 10 km d'Athènes, où s'entassent 2000 migrants quand même. Donc, ces conditions de rétention en Grèce, ça change pas. Et d'ailleurs, il serait temps que ça change. Bon, voilà, je reste pas plus là-dessus. On va passer aux annonces sur fond musical, comme ça on écoute un petit peu Cahiers Tressés. Alors du coup, les annonces.
Alors, on commence avec une annonce pour ce samedi 22 novembre. Donc, il y aura une manifestation à 15h place Esquirol, qui sera une manifestation contre les violences policières. Alors, suite à l'assassinat de Rémi Fraisse le 26 octobre dernier, donc il y a eu des manifestations à Toulouse tous les samedis, mais là, c'est une journée qui est appelée comme une journée internationale de lutte contre les violences policières. C'est donc, c'est normalement, donc une grosse manifestation où il y aura pas mal de monde, et à savoir qu'il y en a également une qui est organisée à Nantes. Je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine. On vous fera un petit compte-rendu de la manifestation.
Et puis mardi 25 novembre, donc mardi qui vient à midi, organisé par Act Up du Sud-Ouest, rassemblement SIDA prison, la double peine. Donc voilà, pour le droit aux soins en détention. Rendez-vous, je l'avais il y a deux secondes, voilà, devant la cité administrative et la direction interrégionale des services pénitentiaires, métro, Compense, Caffarelli. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur Démosphère Toulouse.
Et une autre manifestation le mardi 25 novembre à 18h30, ce coup-ci, donc c'est une manif féministe pour toutes et tous, principalement contre les violences sexistes et notamment les violences policières. Donc le rendez-vous est à 18h30, place Saint-Sernin, devant la Bourse du Travail. Donc il faut quand même préciser que cette manifestation était prévue ce samedi, mais que la préfecture a déconseillé aux féministes de manifester en disant qu'en gros, ils n'avaient pas assez de force de police pour...
Pour faire
en sorte que les manifestations se passent bien entre celles contre les violences policières et la manif féministe. Donc celle-ci a été déplacée.
Bon, très bien. Ben, c'est Bruit de Tôle qui se finit pour aujourd'hui. On est en direct sur Canal Sud tous les jeudis de 19h à 20h et tout rediffusé tous les vendredis, je vais y arriver, de 17h à 18h. Vous pouvez également nous réécouter en podcast sur le site internet de Canal Sud. Vous tapez Brutal dans la recherche et vous trouverez ça. Ou sinon, c'est dans la colonne de droite. Pour nous contacter, bah, c'est simple. Vous pouvez le faire par mail. Brutal, tout attaché, T-O-L-E-S à la fin, tout au pluriel, @no-log.org. Sinon, par courrier, vous pouvez le faire également. Émission Bruit de Tôle, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Mais je crois qu'on a tout dit.
Et oui.
Et ben, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Courage à ceux qui sont à l'intérieur.
Oui, et puis à la semaine prochaine.
Et puis à la semaine prochaine. Salut.
La liberté, c'est toute l'existence, mais...